Bonjour, je m'appelle Shainez et je suis en PSTMG5. Nous sommes ici aujourd'hui pour interviewer Madame Ala Mijon, bénévole au Secours Populaire. Mes camarades de classe et moi-même, nous allons poser des questions en lien avec les séquences de sciences de gestion numérique et management traitées en cours. Nous sommes en compagnie de Rita.
Bonjour.
Qui présentera la séquence « Le comportement de l'individu dans une association ». De Yasmina, qui présentera la séquence « Les interactions des individus au sein d'un groupe et d'une association ». De Noélia, qui nous présentera la séquence « Comment appréhender la diversité des organisations ». De Flavio, qui nous présentera la séquence « Qu'est-ce que le management des organisations ». Bonjour Madame Ala Mijon, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour et d'abord merci à vous les élèves de ce lycée. Je suis très contente d'être parmi vous. Alors, je suis Marie-France Ala Mijon, je suis bénévole au Secours Populaire depuis 6 ans. Je fais différentes missions dans cette association, loi 1901. Notamment, je fais de la formation, j'accueille des personnes en difficulté. On appelle, dans le cadre de permanence, d'accueil, solidarité et santé. Je suis responsable de la commission Monde, puisque le Secours Populaire est une association généraliste de la solidarité en France et dans le monde.
Pour commencer, Rita va vous poser des questions sur la séquence 1, le comportement de l'individu dans une association.
Ma première question, mes questions sont traitées sur les caractéristiques de l'attitude, les attitudes et le comportement, l'identité numérique et le RSE, responsabilité sociale des entreprises. Ma première question est, quels sont les traits de personnalité à avoir pour ce travail ?
Alors, quand on est bénévole au Secours Populaire, une règle, on ne juge pas. La personne qui est en face de nous est considérée d'égal à humain. Notre philosophie, c'est tout ce qui est humain est nôtre. Donc, l'humain, quelle que soit sa couleur de peau, sa confession religieuse, son genre, on l'accueille de la même façon.
Merci. Ma deuxième question, c'est quelle est la cause principale de stress et d'anxiété dans ce métier s'il y en a ?
Alors effectivement, on va recevoir des personnes pour qui, quand c'est la première fois, elles sont très mal parce qu'elles osent venir demander de l'aide. Et pour tout individu, c'est se dire qu'on est en difficulté parce qu'on n'est pas capable de se gérer tout seul. Donc effectivement, on va avoir des personnes qui arrivent et qui pleurent, qui peuvent être agressives parce qu'elles sont mal, et donc il va falloir d'abord les mettre à l'aise, les mettre en confiance. C'est notre maître mot, mettre la personne en face en confiance pour qu'elle se détende et puis du coup nous raconte un peu ce pourquoi elle est venue nous voir.
Et c'est dur de faire ça ?
Oui, il y a des fois où c'est très dur, et comme on est souvent plusieurs personnes à faire des accueils dans des bureaux différents, on va se voir mutuellement pour débriefer, entre guillemets, pour parler, parce que des fois c'est lourd à recevoir, hein, c'est lourd à accepter cette souffrance, ce mal-être de l'autre. Eh bien oui, on est un peu des éponges et il faut savoir évacuer. Donc c'est pas facile.
Ma troisième question, c'est est-ce que l'identité numérique peut-elle nuire à l'image d'un individu pour ce métier ?
J'ai un peu du mal à comprendre ce que vous appelez l'identité numérique.
Vous savez, les réseaux, ce que les gens y mettent sur les réseaux, par exemple Facebook, Twitter, ils peuvent poster des choses qui ne sont pas vraiment à leur...
On n'est pas directement confronté à ça. En tout cas, quand la personne vient nous voir, on est soumis au secret missionnel. Donc, elle peut nous raconter, entre guillemets, sa vie. On le garde pour nous. Même si on va noter des données dans un logiciel qui est complètement confidentiel et propre au Secours Populaire. Par contre, si cette personne nous livre des informations qui pourraient avoir trait à du harcèlement ou de la violence conjugale ou sur un enfant, on doit absolument le signaler. Hein. On est en obligation de signaler tout ce qu'on veut percevoir comme anormalement accepté. Voilà.
Mais vous, en tant que bénévole, est-ce que ça peut nuire à votre image, à votre métier ?
Alors, moi, je pense pas, parce que d'abord, je suis sur aucun réseau. Jamais je ne suis filmée ni photographiée avec des personnes accueillies. C'est comme ça qu'on parle du public qu'on accueille, une personne accueillie. Et bon, alors le téléphone est là parce que parfois le téléphone nous sert notamment de traducteur, parce qu'on accueille souvent des personnes de population étrangère qui ne maîtrisent pas du tout le français, donc il faut trouver un moyen de communiquer. Mais je me sens pas du tout, moi, vulnérable sur les réseaux. Mais on ne sait jamais.
Et quelles sont les démarches mises en place pour accueillir un nouveau salarié dans votre association?
Alors, pour toute personne qui vient dans notre association, faut qu'il partage les valeurs de notre association. Résumé dans la petite phrase que je vous ai dite, tout ce qui est humain est nôtre. Donc, c'est des valeurs, on va dire, de confiance, de réciprocité, d'engagement, de solidarité avant tout, qu'on doit mettre en avant. Ce sont les qualités principales qu'on attend aussi bien d'un bénévole que d'un salarié. Donc, on ne juge pas, on accueille tout le monde de façon inconditionnelle. Alors, on a très peu de salariés, parce qu'un salarié, ça coûte cher, c'est un salaire plus des charges, et donc l'argent que l'on a, on la met plutôt au service des autres pour faire de la solidarité. On a quelques salariés qui vont faire des tâches que nous, les bénévoles, on ne pourrait pas faire, comme la comptabilité, comme faire, on va dire, de la corrélation entre les bénévoles, etc. Mais on a très, très peu de salariés.
D'accord, je comprends. Merci beaucoup. Alors, bonjour, je me présente Yasmina et je vais vous parler des interactions des individus au sein d'un groupe et d'une association. Alors, pour première question, j'ai pourquoi l'écoute active est-elle importante pour bien communiquer avec les autres?
Eh bien, la communication, c'est un maître mot dans ce qu'on fait quand on reçoit des gens fragilisés. Donc, c'est de l'accueil, c'est de l'écoute sans porter de jugement, d'égal à égal. On est en face, mais il y en a pas un. Nous, on n'est pas le sachant et l'autre en une position inférieure. On est sur le même plan d'égalité. Et donc, l'écoute, c'est très important parce que cette personne, elle est venue avec ce qu'on appelle son référentiel, son éducation, son milieu social, sa religion. Et moi, l'écoutant, je suis avec mon référentiel. Et donc, il va falloir mettre tout ça en corrélation pour que ce qu'elle envoie comme message, moi, je puisse le recevoir. Et ça, ça passe par de la reformulation. Ça passe par, évidemment, de l'écoute très active et aussi un comportement. Si j'ai un comportement très les bras fermés, sans sourire, eh bien, je vais bloquer la communication. Tout ça, c'est aussi de l'écoute. Donc, il y a plein de trucs. Et pour ça, on a des formations qu'on dispense à nos bénévoles. On a un institut de formation qui est très, très actif et très, on va dire, très, très professionnel. Et donc, tout bénévole doit avoir des formations. Je suis moi-même formatrice, donc je suis moi-même formée pour être formatrice et pour justement travailler cette écoute active.
Comment l'identité et le statut d'une personne influencent-ils ses relations avec son groupe?
Alors, ça peut influencer parce qu'il va y avoir déjà l'apparence peut-être physique, le barrage de la langue, où on ne se comprend pas toujours. Bon, par exemple, elle peut être habillée avec un voile, avec une kippa, enfin, tout cet aspect extérieur. Alors, effectivement, il faut savoir dépasser tout cela. Et puis après, par la communication, comme je viens de dire, on a tous nos codes, il faut un petit peu faire du décodage pour pouvoir accéder à ce que la personne dans le groupe puisse bien communiquer avec les autres.
Et comme dernière question que j'aurais à vous poser, c'est comment la culture, les règles et la hiérarchie d'une organisation influencent-elles les relations avec ses membres?
Alors, la culture, qui est une nourriture importante, aussi importante que la nourriture qu'on met dans son estomac, on sait très bien qu'elle est différente selon les pays d'où l'on vient. Et les codes sont pas les mêmes. Hein. Par exemple, dans certains pays, on ne donne pas une poignée de main entre un homme et une femme. Ça ne se fait pas. Il y a tous ces codes de culturels qu'il faut apprendre encore à décoder. Et puis, pour trouver un dénominateur commun, c'est vrai que chaque individu a sa propre identité. Et puis on voit dans un groupe il faut savoir. Après, c'est peut-être dans des actions communes qu'on va se retrouver et là les codes vont tomber. Par exemple, si on fait une action commune, je sais pas. Par exemple, je prends le cas d'une opération CADI, c'était le cas ce week-end, où on est là pour que les gens nous donnent des colis, enfin de la nourriture. je crois que là, on a, qu'on soit, on parle même espagnol, c'est pas grave, c'est, on va trouver, on est dans l'action commune. Donc là, l'action commune peut nous regrouper.
Et quel rôle joue le Secours populaire dans la promotion de la solidarité et de l'inclusion sociale à travers ces initiatives de RSE?
Alors, on est vraiment l'association, on va dire, à la fois qui pratique une solidarité, ce qui est différent de la charité. C'est-à-dire que là, on n'assiste pas les gens. On prône surtout pour une éducation populaire. Je ne sais pas si on en a parlé. C'est en fait le retour, c'est d'une sorte d'émancipation. Chaque individu a des qualités et on est là pour essayer de les mettre en valeur, ces qualités. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'émancipation. Chaque individu est capable de réfléchir, d'analyser. Bon, après, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il n'a pas peut-être le background, si je peux parler anglais, derrière lui, mais chacun, et donc là, notre association travaille vraiment à cette éducation populaire, c'est-à-dire ce retour à l'autonomie. On n'est pas là pour faut que les gens, bon, on va les aider un moment, mais c'est surtout à eux de faire les démarches. Par exemple, quand ils viennent nous voir, c'est pas nous qui appelons l'assistante sociale, c'est pas nous qui appelons la CAF, c'est pas nous qui appelons France Travail. On leur donne des pistes et c'est à eux de... Alors, on est là un petit peu derrière eux puisqu'on leur dit, on vous revoit dans 15 jours, on verra... D'ici 15 jours, vous revenez nous voir, vous voyez, on verra si vous avez, comment vous avez avancé. Chacun avance en plus à son rythme. Voilà. Donc, c'est vraiment le propre de la solidarité. Qu'est-ce que c'est que c'est la solidarité? C'est d'offrir... notre association est basée sur la déclaration des droits de l'homme, hein, qui sont aujourd'hui la déclaration de l'être humain, puisque on parle plus de l'homme comme ça. Je ne sais pas si vous la connaissez, d'ailleurs. Mais nos statuts sont vraiment basés sur la déclaration des droits de l'homme.
Oh ben, c'est tout pour moi. Merci d'avoir répondu aux questions.
Du coup, nous, on va voir comment appréhender la diversité des organisations. Du coup, la première question, c'est quels sont les objectifs de votre OSC? Organisation de la société civile.
D'accord. Alors, nous, on est une association donc, de solidarité, mais ce qu'on est avant tout, on est une association indépendante. Alors, on essaie de ne dépendre, dans la mesure du possible, quasiment pas de l'État pour avoir toute l'attitude pour agir. Dans notre budget, on essaie de pas dépasser 20% d'aide publique. Et on se veut avant tout un aiguillon des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on est là pour agir. On est là pour agir sur les conséquences, hein, parfois les conséquences de politique, hein. C'est la politique, c'est que nous font les politiciens. Et on est là, notamment à l'automne, il y a un grand baromètre de Ipsos qui sort sur la précarité tous les ans et qui met en évidence les manques pour les populations, l'augmentation de la précarité, les gens qui ont peur de pas avoir assez d'argent à la fin de mois, les gens qui, par exemple, ne mangent maintenant plus qu'un repas sur trois, ça existe de plus en plus, les gens qui ont peur que pour leurs enfants, hein, pour l'avenir de leurs enfants, le manque de logement, hein, qui était un problème criant dans aujourd'hui en France. Hein, on peut travailler, mais parfois on n'a pas suffisamment ou d'argent ou de caution pour pouvoir être en appartement. On travaille, mais on dort dans sa voiture encore. Hein, ça, c'est des choses qui arrivent. Donc là, alors pour revenir à la question, comment on s'insère dans... Alors on est une association, mais on veut avant tout rester indépendant, aiguillon des pouvoirs publics.
Comment le Secours populaire met-il en œuvre la mission caritative et humanitaire?
Alors justement, comme on ne veut pas dépendre de l'État, enfin, dans une faible partie, on va développer ce qu'on appelle des initiatives. C'est-à-dire qu'on va organiser des lotos solidaires, la chasse aux œufs au printemps, des collectes sur la voie publique, mais pas que. On va également faire des opérations comme les opérations CADI, où là, on va récupérer des denrées alimentaires ou des produits d'hygiène. Et puis, on a des espaces solidaires où là, on va pouvoir pas vendre, parce qu'on n'est pas des boutiquiers, hein, comme on a l'habitude de dire, mais on va, par exemple, on a une boutique de jouets où là, on peut venir acheter, tout public peut venir acheter des jouets, c'est peu cher, c'est juste, on demande une participation. Et ces petits sous récoltés vont venir faire, à la fin, on pourra, par exemple, offrir des voyages, offrir des vacances comme on l'a fait l'année dernière à Camprieu. Pendant 3 jours, on a offert à des familles des séjours en hôtel avec des visites de l'abîme de Bramabo, visites de la ferme des bisons, etc., etc., qui n'auraient pas pu s'offrir. Voilà. Et juste, je finis, on demande toujours une participation aux familles. Parce que justement, comme on ne fait pas la charité, on respecte la dignité des gens en leur demandant toujours un petit euro, une petite participation, quelle que soit l'activité qu'on leur offre. C'est le respect de la dignité. Bon, si ces personnes ne touchent rien, je pense aux gens qui sont en situation irrégulière, qui ne touchent aucune allocation, qui n'ont rien, on va le faire gratuitement, hein, bien sûr. On va pas priver un enfant d'aller, par exemple, à voir visiter un zoo, etc. Voilà. Mais c'est le respect, c'est respect de la dignité. Les gens participent. Et c'est ces petites participations financières, comme tout ce qu'on peut récupérer comme dons, parce qu'on reçoit des dons, hein. Vous pouvez venir donner des jouets, des vêtements, qu'on va remettre dans nos boutiques solidaires, qu'on va, entre guillemets, revendre à pas cher, mais qui nous feront des rentrées financières.
Ben, la troisième question, vous y avez un peu répondu, mais c'est comment redistribuez-vous les recettes au sein de l'OSC, du coup, de l'organisation?
Alors, ben, voilà. Donc, ça peut être aussi bien, en complément de l'aide alimentaire. Juste, en aparté, l'Europe, avec le soutien européen d'aide alimentaire, met à disposition des produits alimentaires. Bon, des produits secs, mais en complément, pour que ces personnes n'aient pas que des pâtes, du riz, on va leur offrir une alimentation un peu plus variée, un peu plus riche. Ça peut être des œufs, ça peut être des légumes verts, des yaourts bio, etc. Donc, voilà une chose. Mais également, on va aussi offrir de la culture. Hein, je l'ai un peu évoqué, la culture, c'est important. Hein, c'est quand même l'évasion, c'est ce qui permet de s'ouvrir. Alors, on a des ateliers sociolinguistiques où les gens apprennent le français. On a du soutien scolaire. On peut emmener les enfants voir des pièces de théâtre. Voilà. Alors, sur le coup, ça fait peur, mais voilà. On a des partenaires comme la médiathèque qui offrent beaucoup de choses intéressantes aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Voilà. On a, l'été, il y a Jazz à Junas où des enfants découvrent la musique également. On a plein d'activités et d'initiatives pour, il y a l'accès à la nourriture, mais il y a l'accès aussi, j'ai oublié de parler aussi de l'accès à la santé puisqu'on a une permanence solidarité et santé où on peut orienter les gens vers des professionnels de santé ou faire un petit peu de prévention, etc., etc. La liste est longue, hein, tout est là.
Et du coup, donc la dernière question, c'est quel partenariat faites-vous au sein du Secours populaire et dans quel but?
Alors, on a des partenariats et ça peut parfois choquer, notamment avec des grandes, on va dire, multinationales comme Carrefour. Ce week-end, c'était les boîtes à bonheur de Carrefour. Quand les gens achetaient des produits Carrefour ou un autre ensemble de produits de marque, ils vont reverser, le Carrefour s'engage à reverser 7% d'argent pour le Secours populaire. Donc, c'est une façon de nous rétribuer. En plus que on récupère des denrées alimentaires qui représentent de l'argent, on récupère aussi de l'argent. Donc, on a des partenaires comme ça privés. Des assurances, AXA, etc. Donc, ils sont un peu des mécènes. Vous connaissez le mot mécène, qui peuvent nous donner, ou des fondations. On travaille aussi avec la fondation Renault, qui peut offrir comme ça financer des permis de conduire pour notamment des jeunes ou des femmes qui ont besoin d'apprendre à conduire pour pouvoir après travailler. Donc ça, ce sont nos partenaires, on va dire public. On est partenaire aussi avec des associations et notamment pour faire notre solidarité internationale. On n'envoie pas de l'argent comme ça au gouvernement là-bas. Hein. On a des partenaires, des associations locales à l'étranger qui sont dans les mêmes objectifs que nous au niveau de la solidarité, dans les mêmes valeurs et avec lesquelles on travaille. Donc ça, c'est d'autres associations avec qui on est en relation et qui peuvent, du coup, on est en transversalité avec ces associations-là.
Bonjour, je m'appelle Flavio, et je vais vous poser quelques questions sur le thème de management s'intitulant « Qu'est-ce que le management des organisations ?» Alors, la première question est la suivante. comment l'association organise-t-elle la prise de décision opérationnelle pour assurer une gestion efficace de vos ressources? Et si possible, pourriez-vous nous en dire plus sur le domaine stratégique?
Alors, nous restons une association loi 1901, donc on n'est pas une entreprise privée. Malgré tout, alors c'est un petit peu, je vais essayer d'être très synthétique, le Secours populaire est un ensemble, union nationale, de 96 fédérations, sachant qu'il y a une fédération du Secours populaire par département, en gros. Voilà. Au niveau de cette union nationale, tous les deux ans, on a un grand congrès national où là, on va décider des actions qu'on va faire pour deux ans, vers où on va aller, sachant que on est toujours dans le domaine de la solidarité. Voilà. Et donc, nous, à notre échelle, au sein de la fédération, on va le décliner, aussi bien au sein de notre fédération, lors de nos congrès ou de notre assemblée générale. Il faut dire qu'au sein d'une association, de notre fédération, on est organisé aussi bien en comités, qui sont eux-mêmes des associations loi 1901, ou en antennes, qui sont juste un groupe de bénévoles. Enfin, de toute façon, les décisions qu'on prend en assemblée générale ou en congrès départemental tous les deux ans, on va les mettre en action pendant ces deux ans. Notamment, pour cette année, on va fêter les 80 ans du Secours populaire. Et là, j'ai pas exactement j'ai pas pris avec moi la rubrique. Pour que le monde tourne autrement, donc on va travailler sur cette phrase-là pour cette année. Et évidemment, partout, il va y avoir des manifestations sur les 80 ans. On va faire venir notamment, au mois d'août, à Paris, 80 000 enfants qui vont venir à Paris sur le Champ de Mars. Voilà. Et nous, à Nîmes, on va essayer de voir quelles actions on a réfléchi, qu'on allait peut-être faire le chiffre 80 avec des bénévoles sur la place de l'Esplanade. Si on y arrive, c'est ce que personnellement j'ai lancé comme idée pour marquer le coup, voilà. Mais les idées, elles sont décidées au niveau de l'Union nationale et redistribuées, mais toujours dans les mêmes idées au sein des fédérations et des comités.
Merci. Alors, la deuxième question, c'est quelles pratiques de management sont mises en place pour motiver et coordonner les équipes de bénévoles et salariés?
Alors, on a donc régulièrement nos rencontres, notamment quand on est élu, hein, parce que tout bénévole peut dire « moi, ça m'intéresse », tout bénévole est force de proposition, hein, et peut être acteur dans notre association, y compris les enfants, dans les cadres de Copains du Monde et les jeunes. Chaque individu a son mot à dire. Hein. On part du principe que tout le monde a des bonnes idées à faire partager. À partir du moment où elles restent dans les valeurs du Secours populaire. Hein. Et donc, on a donc au sein de notre association, notamment à Nîmes, on a un comité départemental qui se réunit tous les trois mois et un secrétariat départemental qui se réunit toutes les trois semaines. Donc là, à ce niveau-là, on peut remotiver les troupes. De dire, là, c'est bien, on a besoin de bénévoles pour faire telle chose. Là, vous voyez, nos recettes, elles sont pas ce qu'on voulait. Il faut qu'on se motive, etc., etc. Voilà. Et c'est un petit peu comme ça qu'on motive. Et par la formation. Encore ce matin, on a eu une formation auprès de certains bénévoles sur l'éducation populaire. Voilà. C'est tous les jours qu'il faut remettre un petit peu. C'est pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Vers où on veut aller?
Merci. La troisième question. Comment évaluez-vous l'efficacité des actions de l'association et quels indicateurs utilisez-vous pour ajuster votre stratégie?
Alors, c'est une très bonne question que tu poses parce que effectivement, on n'est pas dans le système qualité comme dans d'autres entreprises. J'en ai même parlé tout à l'heure avec la secrétaire générale. Je lui ai dit, ça serait bien qu'on puisse faire un petit sondage auprès de nos personnes accueillies, savoir si ce qu'on leur offre dans le colis alimentaire, ce qu'on leur offre comme accueil ou comme activité, est-ce que ça leur convient, qu'est-ce qu'elles veulent. Alors, on a justement quand même imaginé un petit recueil qui s'appelle « Le dire pour agir » et qui permet justement, si on le laisse à nos personnes accueillies, elles peuvent s'exprimer pour dire comment elles voient l'évolution de la solidarité Et donc, ça, ce petit recueil, une fois que les gens l'auront rempli, on va essayer d'en faire une synthèse et puis de se rendre compte si on est à côté de la plaque par certains côtés ou si qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Mais un vrai questionnaire qualité comme on en fait dans certaines entreprises, on le fait pas aujourd'hui. On le fait pas. Mais il y a ça déjà qui est mis en place.
Comment l'association intègre-t-elle les principes de la responsabilité sociétale des entreprises, donc RSE, dans ses actions et sa gestion quotidienne?
On essaie d'être présent et de compter auprès des gros, on fait partie des grosses ONG de la France. Donc on est présent, notamment quand on dit qu'on est 90 000 bénévoles, par exemple, on pèse. Quand on fait, chaque bénévole doit noter son temps et ce temps qu'il donne, il est converti après en équivalent temps plein. Donc on peut dire, aller voir après, voir les responsables à l'État en disant, voyez, si vous aviez dû embaucher tant de personnes, voyez ce que ça vous aurait coûté. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
C'est bon, moi j'ai fini, merci.
Ben je vous remercie à tous de m'avoir écouté.
L'interview est désormais terminée. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Et merci aux auditeurs et auditrices pour votre écoute. Au revoir et à bientôt sur la radio du lycée Albert Camus.
Au revoir, merci beaucoup. Merci à vous.